Bienvenue sur l'émission Les Voix Paysannes, une émission réalisée par l'association ADR82. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 23, reprendre la ferme familiale à sa manière. Je suis Jeanne, volontaire service civique à l'ADR82. L'ADR, c'est l'association du développement de l'emploi agricole et rural, présente dans de nombreux départements de France. Aujourd'hui, on parle d'installation en agriculture. Je suis allée questionner des enfants d'agriculteurs sur leur installation dans la ferme familiale. En 2024, en Tarn-et-Garonne, 62% des installations avec des aides de l'État se sont faites dans le cadre familial, d'après les chiffres de la Chambre d'agriculture. On retrouve la même tendance en France, avec 65% de reprises familiales. Je précise que le nombre d'installations de personnes non issues du monde agricole, appelées souvent néo-ruraux ou NIMA, se font de plus en plus. Par exemple, en région Occitanie, la part des installations hors cadre familial a augmenté de 16%, atteignant 41% en 2021. Prendre la suite de la ferme de ses parents ou de ses grands-parents est encore le modèle majoritaire. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ces transmissions ont évolué. Les enfants ont peut-être davantage leur mot à dire sur le projet agricole qu'ils veulent mettre en place, cherchant pour certains à réorienter à leur façon l'activité agricole de la ferme. Ça peut être en ajoutant une production, en faisant une conversion vers le bio ou en s'associant avec d'autres agriculteurs, par exemple. Le parcours vers l'installation agricole a lui aussi changé. Selon une étude menée dans l'Hérault, le Gard et la Lozère, la majorité des nouveaux installés, peu importe leur origine familiale, se sont installés après une reconversion professionnelle avec une proportion de 80%. Motivés par la recherche de sens ou par des opportunités foncières, ils se sont donc finalement tournés vers le métier d'agriculteur. Les parcours peuvent donc être différents de ce qu'ils se faisaient il y a 30 ans. Nous allons entendre les témoignages de deux enfants d'agriculteurs qui se sont installés récemment. Ce sera d'abord Amélie, associée avec son père avant son départ à la retraite, puis Émilien, aussi associé avec son père, à Montalsa. Installez-vous confortablement, l'émission des Voix Paysannes commence.
Paysans, paysans, plus question de nous taire. Paysans, paysans, solidaires et vivants.
Bonjour, donc, je m'appelle Amélie, donc j'ai 31 ans. Je suis sur la Française, en cours de reprise d'une exploitation familiale. Du coup, mon envie, je suis née dedans, donc compliqué d'en sortir. C'est du coup une transmission du coup de père en fille. On est trois sœurs et voilà. Moi, je suis jamais vraiment partie. Je suis allée voir un petit peu ce qu'était le monde du travail autour et après j'ai eu envie de revenir.
Donc c'était en 2020, comme tu m'as dit tout à l'heure.
Oui, c'est ça. En 2020-2021, ça a été un peu l'année. L'année bascule, on va dire, post-Covid, beaucoup de questions, de questionnements, de changements. Et du coup, j'ai arrêté mon travail pour revenir sur la ferme. Oui, après, bon, étant jeune, déjà, j'avais fait un petit peu des petits boulots. Et là, pendant une année, je suis allée faire un petit peu de cueillette, un petit peu d'aide, cueillette de fruits. Après aussi, j'avais fait carrément dans d'autres secteurs, aide ménagère ou autre, pour vraiment toucher à différents milieux et être sûr que le monde agricole m'était vraiment destiné.
Et donc, ton parcours d'installation, il a consisté en quoi ?
Du coup, je suis sur la ferme depuis 2021, on va dire en tant qu'aidant familial. Et après, du coup, j'ai fait le BPREA en distanciel vu que j'avais commencé à être pas mal impliquée déjà dans pas mal de ventes directes ou que j'avais développé des choses sur la ferme. Du coup, j'avais plus trop le temps de passer du temps, à l'école. Donc, j'ai préféré le faire en distanciel pendant un an. Du coup, ça, je l'ai fait en 2024. Donc je l'ai obtenu au bout d'un an, mon BPRA option grande culture.
Et donc, est-ce que maintenant, tu peux nous présenter ce que vous produisez à la ferme et ce qui va évoluer depuis
Alors, du coup, on est sur une ferme en polyculture élevage. Du coup, on fait des bovins et des ovins viande. Ensuite, on fait des céréales qu'on produit pour la plupart en autoconsommation pour nos animaux. On fait aussi quelques fourrages et luzernes. Et ensuite, on a une partie arboricole avec du raisin de table, des prunes et des abricots et une petite partie de maraîchage courge, courgette et melon. Du coup, on essaye, donc il y a quelques parties que j'ai essayer de développer un petit peu, notamment pour de la vente directe, donc essayer de diversifier un petit peu. Et du coup, on fait, je vends sur le marché de Beaumont le samedi. Après, on fait un petit peu de vente à la ferme. Et après, on fait quelques groupements de producteurs ou de ventes en réseau dans les alentours ou dans les grandes villes comme Toulouse, Bordeaux ou Tarbes.
Et c'est quelque chose donc, que tu as mis en place en partie depuis que tu es installée ?
Oui, c'est ça. Ben, mon père avait commencé un petit peu. Et du coup, là, je l'ai bien développé depuis 2 ans maintenant. Et notamment, là, quelques nouveaux réseaux qui ont commencé à nous démarcher, comme un petit drive sur Piquecos, fin dans les alentours, ou des petites choses comme ça.
Et qu'est-ce qui a évolué d'autre, du coup, à la ferme, dans les façons de faire, les productions
Du coup, en termes de restructuration ou autre, on a augmenté un petit peu le nombre d'ovins sur la ferme. Du coup, on n'a pas encore les bâtiments ou, enfin voilà, les installations adéquates pour le stockage, on va dire, surtout en hiver. Mais bon, on s'adapte. Après, on a du coup repris aussi tout ce qui était verger et arbaux, donc en repiquant et replantant un petit peu, essayer de remettre à jour les plantations. Après, en termes de céréales, il n'y a pas grand-chose qui a changé. En termes de rotation de culture, ça reste à peu près similaire. Et là, du coup, on a pris 2 hectares de vignes en plus, toujours en raisin de table, en fermage. Et voilà.
Et tu me parlais de 2 hangars que vous allez construire pour plus de souplesse, peut-être.
Oui, c'est ça. Il y a un projet de 2 hangars photovoltaïques. Donc, un sur le siège de l'exploitation qui sera plus pour du stockage de céréales. Vu qu'on fait beaucoup plus d'autoconsommation, donc pour essayer de garder notre production. Et une autre partie, donc au stockage de fourrage aussi, et une partie pour les bovins. Et après, on a un second hangar qui est sur la parcelle d'Arbo. Et du coup, là, ce sera plus pour du stockage de matériel propre à l'Arbo, et une petite partie pour un box pour des ovins, pour du coup, du pâturage en fait dans les vergers.
Quel a été le processus de transmission pour le foncier et le logement
Alors, en termes de processus, c'est encore en cours de réflexion. On a du coup toute la partie que mon père avait déjà en fermage, que moi, je vais reprendre à mon nom. Et ceux dont mon père est propriétaire en termes de terre et de bâtiment, du coup, je les prends en fermage. Du coup, on fait un contrat de lui à moi. Et après, du coup, pour mon installation, actuellement, je n'achète pas de terre.
Ni de logement,
non. mais du coup, en termes de projet futur, on resterait sur une... du coup, il y aurait ce nouveau principe de pâturage d'ovins dans les vergers. Donc, à voir en termes de roulement, de fonctionnement, comment ça peut marcher. Après, garder du coup le côté vente directe en essayant de le développer encore un petit peu plus avec quelques petits magasins aux alentours, de se faire connaître, développer peut-être un peu la vente à la ferme. Si le temps le permet. Et après, voilà, voir comment ça se passe déjà en menant la barque, on va dire.
Du coup, la cohabitation avec ton père se passe bien ? Les relations, du coup, au travail
Alors, en termes de cohabitation, alors le relationnel, vraiment rien à dire. C'est quelqu'un de très ouvert et de très pédagogue. Donc du coup, c'est vrai que ça facilite les échanges et ça donne envie aussi de ne pas avoir des prises de tête tous les jours et entre guillemets de croiser les idées sans que chacun fasse à sa tête. C'est pas du tout le cas. Mais après, voilà, il y a quand même des habitudes et des fois aussi, on est sur 2 générations, donc des habitudes même de pratique et de culture qui sont différentes. Qu'il y a des nouveautés qui pourraient se mettre en place, mais du coup, je pense que ça viendra en parlant un petit peu plus et en laissant le temps aux choses, quoi. Voilà.
Vous êtes bien dans les voies paysannes, réalisé par l'ADR 82, épisode 23. Nous parlons aujourd'hui du fait de reprendre la ferme familiale à sa manière, lorsqu'on est enfant d'agriculteur. Tout de suite, une petite coupure musicale et nous revenons juste après pour la suite de l'épisode.
Transmitido e será neutralizado. Teu pudor foi transmitido. juntos, com menos rigor apontar quem seria eu. Sou órfão da tua ternura. Oh, ei, are, ei. Oh, ei. Oh, areia. Oh, ei, are, ei. Oh, ei. Ao meu lado adormeces, um oceano nos separa, mas tu não sabes de nada. A canção que se repete, a tristeza que me cala, o amor foi recebido, apesar do que tu calas. O amor foi recebido, apesar do que tu calas.
Venez d'écouter Maria Andrade et son titre « Affetto ». Revenons maintenant sur l'émission « Les voix paysannes », épisode 23. Reprendre la ferme familiale à sa manière. On part maintenant à la rencontre de Emilien à la ferme de Granes à Montalza.
Donc, bonjour, donc, mon nom c'est Emilien Méraville, j'ai 25 ans. Je me suis installé en agriculture il y a maintenant 2 ans. Bon, pas tout à fait 2 ans, presque, le 1er janvier 2024. Donc, je suis issu d'une famille d'agriculteurs depuis mon arrière-grand-père. Donc, je suis à 4e génération de l'exploitation, au nom de Méraville, il y en a dû avoir avant. Donc, j'ai repris l'exploitation donc, familiale, où dessus, il y a environ 37 hectares de vignes, d'arboriculture et de céréales. Ça se mélange un peu tout. Donc, comment je suis venu à faire de l'agricole? Depuis tout petit, moi, je suis dans le monde agricole. J'ai baigné là-dedans. Hein. J'ai toujours suivi mon père et mon grand-père dans les champs. Donc voilà. Donc, depuis tout petit, j'étais destiné à faire ça. Donc, j'ai fait tout en fonction. Tout ce qui est les études et tout. Donc, j'ai fait un lycée agricole. J'ai fait un collège normal, mais j'ai fait un lycée agricole, un bac scientifique. Avec des options d'écologie et d'agriculture et d'agronomie. Et ensuite, je suis parti à l'école d'ingénieur de Purpan à Toulouse, où j'ai fait 5 ans et où j'ai été diplômé ingénieur. Et pendant ces 5 ans, en fait, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis posé la question de est-ce que j'avais vraiment envie de reprendre de suite après ou pas, ou est-ce que j'avais envie d'aller voir ailleurs, d'avoir une expérience professionnelle aussi un peu ailleurs. Et ce qui a fait que, après mes... trois à quatre premières années de Purpan, je me suis aperçu à travers différents stages, différents postes, jobs que j'ai pu faire pendant l'étude, en fait, je me suis aperçu que là où j'étais vraiment le mieux, c'était à la ferme. C'était là où j'étais le mieux, parce que je pouvais décider aussi de ce que je faisais, je pouvais faire mes projets, comme c'était la ferme familiale, et qu'on est une famille qui s'entend quand même assez bien, même s'il y a des différences de génération et des différents points de vue générationnels, on est quand même une famille qui s'entend bien, donc du coup, ben, c'est le seul endroit où je m'engueulais pas avec mes patrons, on va dire. Donc voilà. Donc non, c'était le moment, après les 5 ans, et les 5 ans de Purpan m'ont permis de pouvoir être qui je suis et de pouvoir faire le métier comme j'avais envie de le faire et avec les projets que je suis en train de mener. Voilà.
Et donc, du coup, qu'est-ce qui a évolué à la ferme par rapport à ce qu'il y avait à la génération de tes parents ?
Alors, il y a eu énormément d'évolutions. Je pense que les évolutions qu'il y a eu, c'est même entamé avec mes grands-parents. On peut dire que déjà, le gros boom qu'il y a eu, bon, avec mon grand-père, si on refait un peu l'historique, avec mon grand-père, bon, ben, c'est les 30 glorieuses, on a tout, l'arrivée du tracteur et tout ça, donc ça, vous l'avez tous connu, toutes les anciennes générations ont connu, l'arrivée de l'eau courante, l'arrivée de l'électricité courante, enfin, tous ces trucs-là. La génération de mon père a passé l'exploitation en agriculture biologique. Dès l'installation de mon père, toute exploitation est passée en agriculture biologique. Donc depuis 1992, donc il n'y en avait pas beaucoup à 1992, et là maintenant, voilà, il y en a un peu plus. Et moi, ce qui a changé, ben, c'est que du coup, j'ai un aspect un peu plus, j'allais dire, théorique. Donc c'est-à-dire, j'essaie d'allier à la fois la théorie et la pratique. Parce que quand même, on peut les allier, même s'il y a quand même de grandes différences entre les deux. Mais on va dire que moi, j'essaie d'accentuer un peu l'aspect agroécologique. L'aspect écologique, on va dire, donc c'est-à-dire en repensant, en redessinant les parcelles, en repensant par exemple ben, des implantations de haies, en repensant des assolements, en évitant de faire que de la mono-espèce, c'est de faire plus de métaille, de mélange prairie, de prairie et tout. Il y a cet aspect-là qui a changé d'un point de vue entre mon père et moi. Ce qui a été mis en place aussi, c'est qu'on essaie de refaire revenir un élevage sur exploitation bio. Parce que c'est vrai que l'élevage, il y en a toujours eu un historiquement, mais faire du bio sans élevage, c'est un peu compliqué, parce que ben, grâce à l'élevage, ça nous permet de boucler des cycles d'amendement, de matière organique et tout. Et donc du coup, d'être un peu plus autonome et un peu plus indépendant vis-à-vis des fournisseurs et tout, et vis-à-vis des intrants extérieurs. Donc on est en train de remettre en place un élevage sur exploitation. Et après, moi, j'avais cette volonté quand même, à la différence de mon père, même s'il est ben, très content que je fasse ça, et il va s'y investir à fond aussi là-dedans, parce que bon, il est venu à la retraite encore, mon père, donc on est associé. Je remets en place en place un lien direct avec le consommateur, et donc du coup, grâce à l'élevage, on va faire la transformation fromagère. Avec de la vente directe sur exploitation, pour essayer de retrouver un peu un lien avec le consommateur et de recontrôler un peu les produits que l'on fait sur exploitation et de ne pas tout envoyer dans des coopératives comme il se fait actuellement. Voilà.
Ok, parce qu'avant, donc, il y avait des vaches, c'est ça ?
Avant, on avait des vaches, on a toujours eu des vaches historiquement. Depuis mon arrière-grand-père, il y a toujours eu des animaux. Mon père a décidé, pour avoir plus de temps de famille, d'arrêter le lait. Mais bon, voilà, ils ont décidé d'arrêter l'élevage pour le lait. Ils se sont tournés plus vers l'élevage de pensionnat, donc c'est-à-dire l'élevage des génisses prêtes à veiller, qui revendaient du coup après à des éleveurs. Donc il faisait un peu tout le début de la vie du génisse et avant de les revendre jusqu'à là, il y a très peu de temps, jusqu'en août 2025, où on a arrêté complètement du coup l'élevage des vaches pour mettre l'élevage de chèvres caprins qui devrait arriver courant 2026. Courant 2026.
Est-ce que vous pouvez revenir sur du coup le processus de transmission par rapport au logement, le foncier, comment est-ce que...
Ouais, ben alors ça c'est un travail qui a été entamé il y a très longtemps. On l'avait entamé alors que je n'étais pas encore diplômé et pas encore sorti de l'école d'ingénieur de Purpan. Il a décidé de dissoudre la société individuelle parce qu'il était un homme propre, c'était l'exploitation Méravigue, Patrick. Donc il a décidé de dissoudre cette société-là, enfin, cette exploitation individuelle, pour créer une ARL, pour pouvoir que je puisse rentrer moi et m'installer beaucoup plus facilement, juste en rachetant des parts de cette ARL-là, pour arriver maintenant à 50-50. Donc ça veut dire que ça a été un travail, avant que moi je m'installe, ça a été un travail de quasiment 2 ans, de plus de 2 ans de papier, d'administratif et tout, pour pouvoir créer cette ERL-là, pour pouvoir me transmettre des parts de l'ERL, et que je puisse m'installer en toute facilité. D'un point de vue du foncier, le foncier lui appartient, tout le foncier actuellement sur exploitation lui appartient encore, et il le met à disposition du coup l'ERL, c'est comme un fermage. Mais là, nous sommes en train de faire en 2026, donc vous voyez, il y a eu déjà 4 ans entre 2022 et 2026. Donc normalement, en 2026, là, 4 ans après, on devrait, il devrait me transmettre l'entièreté des terres qui sont à son nom, il devrait me les transmettre à mon nom, pour qu'en fait, ben, on anticipe, lui, sa mise à la retraite, du coup, et son départ à la retraite, pardon. Et que du coup, au moment où il part à la retraite, ben, il n'ait plus rien dans l'exploitation et que tout me soit donné ou en tout cas transmis d'un point de vue équitable avec ma sœur, parce que j'ai quand même une sœur et il faut y penser dans la transmission, c'est que les deux enfants doivent être équitables l'un à l'autre. Donc ça veut dire qu'on fait tout là pour que, ça, on appelle ça un arrangement de famille, on fait tout pour que à la fois moi je reçoive ben, l'exploitation, et que ma sœur, elle, à côté, ne soit pas lésée d'un point de vue ben, foncier ou économique sur la transmission. Donc, c'est un travail de longue haleine qui n'est pas terminé encore, qui va se terminer là en 2026. Et pour tout ce qui est rachat des parts dans l'ERL de mon père, on verra ça au moment de son départ à la retraite. On va essayer d'en transmettre, on va dire, chaque année un peu plus à moi. Et on va voir si à son départ à la retraite, soit c'est moi qui récupère l'entièreté des parts à mon nom, soit si ma sœur veut rentrer, veut avoir des parts, peut-être qu'elle voudra, mais j'en sais rien. On en discutera tous ensemble. Le but, c'est que l'avantage qu'il y a avec ERL, c'est que du coup, je peux être tout seul, sans jamais changer de statut de société, ce qui n'était pas possible avec un GAEC. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de créer directement une ERL pour... penser à cette transmission sur le long terme, plutôt que de dire bon, on crée un GAEC sur 3 ans pour que, autant que je sois là, et au jour du départ retraite qu'on dissout le GAEC et on recrée un ERL. Bon, c'est, on aime faire des papiers, mais moins on en fait, mieux on se porte. Voilà.
Quand votre père sera plus présent dans la ferme, il y aura les mêmes activités, par exemple les vignes
Oui, ben, en fait le truc c'est qu'on il s'enlève de l'exploitation. Il vend ses parts d'exploitation. Il ne sera plus officiellement exploitant. Mais bon, comme toutes les générations, enfin, vous le savez, dans le monde agricole, en général, les grands-parents, enfin, ceux qui transmettent, restent sur l'exploitation. Là, actuellement, mon grand-père, ben, des fois, quand il s'embête et tout, ben, il veut venir nous donner un coup de main. Bon, ben, on lui dit pas non. On va pas lui dire non, quand même pas. Donc voilà, donc mon père, le but c'est que ben, je pense qu'une fois que exploite, une fois qu'il aura vendu toutes ses parts et qu'il sera à la retraite, je pense qu'il deviendra entre guillemets salarié agricole à mi-temps ou autre comme ça, de manière qu'il soit ben, couvert et qu'il puisse toujours venir aider sur l'exploitation s'il a envie de venir aider. Voilà, on va dire ça comme ça, parce que ben, comme toutes les générations, quand on a passé une vie entière sur une exploitation, on n'a pas forcément envie de partir de cette exploitation-là. On préfère continuer à aider à travailler sur l'exploitation plutôt que de dire, ben, en fait, ben, tout le bazar, on te laisse et tu te débrouilles. Ça marche. Enfin, en tout cas, nous, dans notre famille, ça n'a jamais marché comme ça et ça ne marchera pas comme ça non plus avec mon père parce qu'il a envie de rester, de rester m'aider, quoi. Voilà.
Et les rapports avec votre père, du coup, au travail, ça se passe bien? Vous arrivez à collaborer?
Si on collabore bien, il y a toujours des tensions. Hein. Comment on parle, il y a des tensions générationnelles parce qu'on n'a pas les mêmes points de vue, les mêmes façons de travailler, les mêmes façons de réfléchir et tout. Moi, comme je le dis, alors, à la différence, c'est que mon père, j'allais dire, a toujours été, c'est pas parce que c'est mon père que je dis ça, mais il a toujours été avant-gardiste par rapport à ce que les autres peuvent être, de sa génération parfois. Avant-gardiste du point de vue que il essaie toujours d'anticiper les problèmes plutôt que de traiter les problèmes au moment des faits. il préférait anticiper le problème en disant bah, peut-être que j'atténuerai après le fait de devoir travailler ce problème.
Vous avez un exemple?
Bah, typiquement, on essaye de... Ça fait un moment qu'on essaye de réfléchir au changement climatique. Tout ce qui est changement climatique et tout. On ne peut pas parler de réchauffement climatique. Ça, c'est un terme un peu barbare, le réchauffement climatique. Parce que là où nous, ici, sur, on va dire en, dans le sud-ouest de la France, oui, ça se réchauffe. Alors que peut-être dans le sud de l'Espagne, ça se refroidit. Enfin, c'est un exemple. Le réchauffement, y a des zones qui vont se réchauffer, d'autres zones qui vont se refroidir.
Dérégulé.
Donc il y a un dérèglement climatique et donc il y a un changement climatique plutôt qu'un réchauffement. Ici, on peut parler de réchauffement, mais moi je préfère employer le mot changement parce que des fois il fait très froid, des fois il fait très chaud, et dans des périodes qui sont anormales par rapport à la norme. Donc il a essayé d'anticiper sur certaines choses au niveau du réchauffement climatique, donc j'allais dire le passage en bio peut être un exemple avant-gardiste. Je ne dis pas que c'est la solution à tout, le bio, très très loin de là même, parce que je lui ai démontré que ce n'était pas forcément toute la solution à tout. Mais il a essayé d'anticiper sur ça. Il a réfléchi aussi sur l'implantation d'autres espèces arboricoles, comme les agrumes. Des agrumes, ici, de Quercy, personne n'en fait et personne n'y est pensé. Et lui, ça fait 10 ans qu'il réfléchit à ça. Alors, c'est pas mis en place encore sur l'exploitation parce qu'il y a des contraintes techniques et on va dire aussi climatiques encore qui font que. Mais on sait que tout est déjà réfléchi et que le jour où ça pourra et où ça devra se mettre en place, il y a des très grandes chances qu'on le fasse. Donc il a réfléchi à plein de choses comme ça. Et ensuite, j'allais dire, il est avant-gardiste et il n'est jamais fermé à l'évolution. Pourquoi ? Parce que dès que moi je lui parle aussi de changement et dès que je lui apporte mes idées, mais il n'est pas fermé à dire non, ça ne se fait pas comme ça, il faut faire comme ça. Non. Il réfléchit, on en discute, on voit comment on peut faire d'un point de vue technique, parce que lui, il a l'aspect beaucoup plus technique. Moi, comme je disais, j'apporte l'aspect un peu plus théorique et lui, il m'apporte l'aspect un peu plus pratique, technique. Qui fait que il y a une complémentarité qui se fait au travail tous les jours. Après, il y a quand même des tensions. Et, des fois, on n'est pas d'accord sur des points et on s'engueule et voilà, et on s'engueule un bon coup et après ça repart comme si de rien n'était. Mais c'est normal. J'allais dire, je connais pas quelqu'un qui ne s'est jamais engueulé avec ses parents ou sur n'importe quel sujet. Là, on parle d'un point de vue pro. D'un point de vue perso, ça arrive aussi tous les jours d'avoir des engueulades avec ses parents. Donc là, ça fait partie du job. Et l'avantage qu'il y a, c'est que comme on s'entend bien et qu'il n'est pas fermé aux nouvelles idées et aux changements, parce que la preuve pour les chèvres, du coup, il a toujours accepté le fait que moi, je voulais faire ça, c'est un plus. C'est plus compliqué avec mon grand-père, parce que vu que du coup, ouais, il habite encore sur l'exploitation, là, il y a quand même un vrai écart générationnel, un vrai écart technique. Mais le truc, c'est que mon père, lui, voit le changement, comprendre tous les aspects, on va dire, tous les problèmes qu'il peut y avoir aussi liés à de l'administratif ou quoi, ce que mon grand-père ne comprend pas parce que mon grand-père n'a pas vécu de l'intérieur en étant vraiment agriculteur. Il n'a pas subi cette surcharge, par exemple, administrative que nous, on subit actuellement et que du coup, mon père comprend le fait que moi, je peux avoir une surcharge administrative pour tous les projets que je veux faire, que mon père aussi a une surcharge administrative pour tout ce qui est fait actuellement sur l'exploitation, mais ça mon grand-père ne le voit pas parce qu'il ne le fait pas, donc là il y a vraiment un gros écart générationnel d'idées et de points de vue du métier de l'agriculteur, voilà. On va dire ça. Donc voilà, on va dire les écarts, et voilà, on va dire à tous les jours, au travail, comment ça se passe. On va dire que pour résumer, ça se passe bien. Il y a des discordes pour ces différents points-là, mais encore, on s'entend assez bien avec mon père pour ne pas avoir de trop grosses discordes. Par contre, les discordes sont un peu plus importantes avec un saut générationnel encore plus important. Donc, ce qui peut pénaliser des fois des installations quand c'est une reprise de petit-fils à grand-père. Alors que là, c'est vraiment une continuité familiale ou c'est vraiment une reprise fils-père. Donc, c'est... Voilà, les décisions et les choix sont beaucoup plus faciles à prendre. Voilà. Beaucoup plus... compréhensible de chacun.
Ok. Et concernant le logement, du coup, vous avez fait comment au départ ?
Comment on a fait donc, comme je le dis, il y a trois générations qui s'entrechoquent actuellement sur exploitation. Mes grands-parents habitent encore sur exploitation. C'est eux qui ont la maison de l'exploitation parce qu'ils sont nés là et ils ont vécu là toute leur vie. Et voilà. Mon père, lui, a sa maison. Une maison qui appartenait aussi à la famille il y a très longtemps, qui était une vieille bergerie, des arrière-arrière-grands-parents. Et que du coup, avec mes grands-parents, ils ont décidé de retaper et de faire un logement du coup dans cette maison, il y a dans les années 80-90. Et du coup, ils avaient fait de base un gîte, et du coup, ben, ce gîte-là, quand mon père devait trouver une maison, ben, avec ma mère, du coup, mes parents, quand ils ont dû trouver une maison, ils ont dit, ben, on récupère le gîte et on y habite dedans. Donc voilà, donc il y a eu tout ça. Donc là, pour ces deux générations, il n'y a pas eu de problème, et sauf qu'entre guillemets, ben, quand il y a une troisième génération, il faut trouver quand même quelque chose. Donc ce qui a fait que ben, moi, j'ai dit que c'est entièrement légitime que moi je parte d'ailleurs, et que du coup, je loue un appartement dans un village à côté, et voilà, et j'habite tous les jours, je fais les trajets pour venir à l'exploitation, et voilà. Là, actuellement, on est en train de, du coup, vu qu'on a arrêté les vaches, on est en train de créer un nouveau logement sur exploitation, un nouveau petit appartement, qui là sera dédié du coup à mes grands-parents. Un appartement qui du coup, ben, est plus petit, beaucoup plus cosy pour eux deux. Et j'allais dire, vu que c'est d'ancienne génération, ben. Alerte, je suis désolé pour peut-être les collectifs, les féministes ou des trucs comme ça, mais c'est encore, vu que c'est une génération, c'est encore la femme qui fait beaucoup le ménage, qui fait beaucoup la cuisine. Donc du coup, ma grand-mère, elle ne supportait plus la grande maison actuelle dans laquelle elle vit. Et mon grand-père, lui, s'en fout, parce que c'est pas lui qui fait le ménage, et c'est pas lui qui fait la cuisine, c'est pas lui qui fait toutes les tâches ménagères de la maison. Donc du coup, elle, donc avec ma grand-mère, on a décidé que du coup, dans la vieille étape, on allait leur faire un petit appartement que pour tous les deux, qui est beaucoup plus petit pour ma grand-mère. Et que comme c'est ma grand-mère qui fera ben, encore le ménage et tout, ben, ça sera beaucoup plus facile pour elle. Et donc du coup, ben, comme elle ne veut pas d'aide, en plus, ça c'est aussi les vieilles générations, elle ne veut pas d'aide pour faire le ménage et qu'elle veut faire tout elle-même. Et on a dit, ben, la seule solution, c'est de faire un petit appartement pour eux. Et comme ça, moi, je vais pouvoir revenir sur la maison actuelle de mes grands-parents et ben, vivre à côté de chez eux, entre guillemets, à côté de leur petit appartement, et m'occuper d'eux en cas de problème ou des trucs comme ça. Quoi. Voilà. C'est le deal, ça a été vu comme ça pour que les trois générations, entre guillemets, sans empiéter sur la vie privée de l'un et de l'autre, puissions facilement cohabiter et que chacun y trouve son compte et soit heureux dans. Ben pour tout le monde quoi. Le but c'est que les trois générations soient heureuses quoi. Dans la cohabitation. Voilà. Et tout ça pour la ferme. Voilà. Tout ça pour rester sur une exploitation familiale. Donc le but c'est que cet appartement-là servira après aussi pour potentiellement quand on redeviendra trois générations. Ben là, peut-être que c'est moi qui irai dans ce petit appartement. Et mon fils ou ma fille dans la maison. Et mes grands-parents dans leur maison actuellement. Enfin, on n'en sait rien, mais. Au moins, entre guillemets, on va pouvoir avoir trois habitations dans notre famille pour que toutes les générations puissent cohabiter.
Et est-ce que vous avez un petit mot à dire par rapport à la fête d'accueil que vous pensez organiser cet été ?
Comme je l'ai dit, actuellement, on va représenter un peu tout. On est en train de mettre en place une exploitation. On est en train de mettre en place, pardon, un atelier d'élevage de chèvres caprem. Et le but, c'est qu'au moment où la chèvrerie, entre guillemets, avec la fromagerie sera terminée, et où il y aura peut-être des premières chèvres aussi, on fasse une petite soirée d'inauguration, de fête, de porte ouverte, manière de se faire un peu connaître, d'essayer d'avoir des gens qui soient intéressés aussi par ce qu'on va proposer comme service, parce qu'on veut essayer de renouer du contact entre ben, n'importe quelle personne, que ce soit des consommateurs ou non, des personnes du monde agricole ou non, on veut essayer de renouer du contact entre le monde agricole et on va dire une personne lambda. Et donc du coup ça, on va essayer aussi on veut essayer aussi de créer des vocations parce que le monde agricole c'est très compliqué certes, surtout avec l'actualité qui est actuellement, c'est très compliqué, mais c'est un super métier. Et le truc c'est que je jette le pavé dans la mare, mais il y aura la mise en place très prochainement. Donc courant février-mars, potentiellement de parrainage de chèvre. Donc ce que moi j'appelle ça le parrainage de chèvre. Donc ça veut dire qu'en fait, ben, pour parrainer une chèvre, qu'est-ce que c'est ? C'est vous donner une certaine somme d'argent que je n'ai pas calculée, voilà, pour pouvoir parrainer une chèvre, surtout en une année. Et en contrepartie, ben, quand vous viendrez sur la ferme, vous pourrez et voir votre chèvre, ce qui est normal, visiter la chèvrerie, et en plus avoir des réductions sur tous les produits de la ferme à l'achat. Et nous, ça nous permet aussi de renouer du contact vraiment entre ben, le client, le consommateur, et le monde agricole. Le but, c'est qu'on montre aux gens comment on fait les choses et les intéresser un peu à ce qu'ils mangent dans leur assiette plutôt que d'acheter des choses en supermarché. Et le but, c'est que nous aussi, on sera très heureux d'accueillir les gens sur exploitation pour leur montrer notre métier, quoi. Le but, c'est que on renoue du contact. Vraiment, le maître mot, c'est renouer le contact avec les gens et avec le monde extérieur agricole. Voilà. On fait tout pour que nous, on soit heureux, et on fait tout pour que aussi essayer de rendre les gens heureux autour de nous. On essaye d'être arrangeant pour tout le monde. Voilà.
Très bien, bon bah merci.
En tout cas. Mais bah avec plaisir, et puis bah, peut-être une prochaine fois.
On a pu voir dans cet épisode deux exemples de reprise de ferme familiale. D'abord Amélie de la ferme Louranquet à La Française, et ensuite Emilien de la ferme de Grane, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur les réseaux sociaux, à Montalza. Même si la majorité des installations se font encore dans le cadre familial, il y a de plus en plus de personnes qui ne sont pas issues de la même famille, voire même non issues du monde agricole, qui s'installent. Les pratiques agricoles et les façons de s'installer ont donc évolué. C'est la fin de cet épisode. Vous pouvez retrouver l'émission tous les premiers mercredis du mois sur CFM Radio à 19h et le dimanche qui suit à 20h. Et en rediffusion sur le site web de CFM et de l'ADR 82. Notre site internet est le suivant, www.agriculturepaysanne.org/ADER82. Si vous cherchez à vous installer en agriculture ou à transmettre votre ferme, nous proposons sur notre site web des annonces de fermes et des terres à vendre ou à louer, ou encore des annonces d'agriculteurs qui souhaitent s'associer. J'en profite pour vous partager les formations prévues par l'ADAR au mois de janvier dans le département, destinées aux agriculteurs et aux curieux. Nous proposons différentes thématiques. Il y en aura sur le sujet de la transmission de fermes par rapport à l'anticipation et la préparation en toute sérénité de sa transmission. D'autres formations sont prévues sur l'entretien du petit matériel agricole en omnicité choisie ou encore sur le dépannage du réseau électrique de sa ferme. Et enfin, une autre abordera le sujet des rations alimentaires des animaux grâce à la méthode Opsalim. Retrouvez toutes les informations sur le site web de l'ADR 82 ou par téléphone au 06 46 74 70 69. Merci pour votre écoute et on se retrouve le mois prochain sur l'antenne de CFM Radio. C'était Les Voix Paysannes de l'ADR 82.